Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matins, nous conversons autour de la géopolitique mondiale. Et la géopolitique mondiale, eh bien, en ce moment, elle se passe au Proche-Orient. Vendredi, le cessez-le-feu a été violé. Ça signifie reprise des opérations militaires. Que signifie justement cette reprise des opérations militaires, Daniel Haber?
Écoutez, cette reprise, elle n'était pas évidente. Beaucoup pensaient que peut-être cette trêve d'une semaine pour libérer les otages permettrait d'être transformée plus tard en cessez-le-feu. Qui l'espérait? Essentiellement le Hamas. C'était ça sa tactique. Il a fait une opération qu'il pensait intelligente, à savoir, je me débarrasse d'un certain nombre d'otages qui sont encombrants et inutiles, j'en ai trop, je sais à peine où ils sont, j'ai pas besoin d'avoir des femmes et des enfants, je vais les libérer, je vais obtenir la libération de quelques prisonniers. En fait, d'habitude, le Hamas demande 1 000 prisonniers pour un otage. Là, c'est un pour trois, donc c'était un prix très bas en réalité pour le Hamas, parce que ce qu'il espérait le plus, c'était justement cette trêve et la possibilité de la prolonger en un cessez-le-feu. Et pourquoi pensait-il ça? Parce que derrière l'opération du Hamas, une opération tactique d'un groupe terroriste qui utilise tous les moyens, il pensait que l'opinion mondiale allait soutenir cet objectif d'un cessez-le-feu, qui d'ailleurs marquerait sa victoire. Donc c'était un objectif très important pour le Hamas. Et donc il espérait que, en gardant 130 soldats, de toute façon, il a de quoi négocier sa survie un peu plus tard, et il obtiendrait cette transformation de la trêve en cessez-le-feu. Il a échoué. Il a échoué parce qu'en face, Tsahal et derrière lui, le gouvernement israélien, ont une stratégie très claire. L'objectif principal et unique, c'est de mettre hors d'état de nuire à Gaza le Hamas, expression que je préfère à éradiquer le Hamas, parce que ça, c'est une autre paire de manches, mais mettre fin à ça. Et donc, Israël n'a pas perdu de vue l'objectif principal, qui montre qu'il est stratégique, qu'il ne s'agit pas, comme bêtement le disent certains, d'une vengeance, mais il s'agit d'une nécessité stratégique pour Israël et d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays dans le monde qui n'espèrent qu'une chose, c'est qu'Israël réussisse à nous débarrasser du Hamas.
Vous parlez justement de ces pays dans le monde. On utilise l'expression clameur mondiale. Quel est le contenu de cette clameur mondiale?
Oui, on entend la clameur mondiale, c'est arrêter les bombardements et cesser le feu. Alors, qui clame? D'abord, les États, y compris les États amis d'Israël, qui disent oh, tout ça, c'est pas bien. Biden, le premier, a parlé de vengeance. Donc, il a introduit la mauvaise communication dès le départ. Les Européens ne cessent de dire vous avez le droit de vous défendre, mais ne pas de bombarder les civils, donc vous pouvez pas vous défendre. On a un discours complètement schizophrène des amis d'Israël. Mais derrière les États, vous avez tous les autres des États occidentaux et tous les États qui font partie du Sud global, qui en réalité sont composés de pays musulmans pour 60 sur 40% des États du Sud global, ils sont musulmans. Et les autres, ils ont des minorités musulmanes extrêmement actives. Et puis vous avez la Russie et la Chine qui profitent de cette clameur du Sud global pour marquer des points contre les États-Unis avec qui ils sont en confrontation. Et puis vous avez aussi les organisations internationales, l'ONU qui représente justement le Sud global, vous avez les organisations humanitaires qui sont gérées par des personnalités de gauche, militantes, anti-occidentales et souvent anti-israéliennes. Et derrière, vous avez les médias, les réseaux sociaux qui sont le principal accès à l'information pour la plupart des gens, et les grands médias soi-disant respectables qui sont tous de gauche, comme Le Monde, comme Le Guardian ou comme le New York Times, sans parler de Al Jazeera, de la BBC ou de CNN. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui amplifie cette clameur mondiale. Et alors, que dit cette clameur mondiale? Ils disent des choses très simples. Les bombardements sont sont inhumains, sont indiscriminés et sont contraires au droit international. C'est trois mensonges, mais qui sont répétés par cette clameur. Il vaut mieux ne pas éliminer le Hamas, mais s'asseoir avec lui ou avec d'autres pour remplacer les bombardements par une négociation et évidemment, conclut-il, pour négocier l'existence d'un État palestinien, parce que c'est pour ça que le Hamas a agi. Tout ça, c'est un conte de fées. Tout ça, c'est une série de mensonges, mais qui est acheté complètement par la plupart des médias et qui fait partie de cette clameur mondiale détestable pour Israël, qui a beaucoup de mal à lui tout seul à résister à cette clameur et qui est obligé de faire front tout seul et avec beaucoup de courage.
Daniel Abert, vous avez cité quelques exemples. On a l'impression qu'il y a une unanimité dans les réactions. Que signifie cette unanimité?
Oui, quand même, il faut se poser des questions. Quand vous avez en même temps, les mêmes jours, des manifestations sur toute la surface du monde qui se ressemblent totalement, c'est-à-dire tout d'un coup sortent des milliers de drapeaux palestiniens et du Hamas, ils étaient stockés par qui? Pour quel moment, oui, on peut se poser des questions sur cette question de simultanéité de milliers de gens qui défilent avec les mêmes drapeaux et avec les mêmes slogans. Et tout à coup, on a vu apparaître un slogan qui d'ailleurs est répété tout le monde, même dans les pays francophones, en anglais, ce qui prouve bien qu'il y a derrière un organisme central dont je vais parler qui orchestre tout ça. C'est de la rivière à la mer, libérer la Palestine, from the river to the sea, free Palestine. Voilà ce qu'on a entendu. Et alors, donc, on est en droit de se poser des questions sur qui orchestre tout ça. Et la réponse, elle
C'est
est.
clairement un message qui appelle la mort aux Juifs.
Alors oui, il y a de l'anti-judaïsme derrière, mais je crois que derrière l'anti-judaïsme, Blaise, il y a l'anti-occidentalisme. C'est derrière Israël, il y a l'Occident. Et l'Occident ne le voit pas. Et au lieu de se mettre aux côtés d'Israël pour se défendre, ils se mettent aux côtés de la haine anti-juive. Et d'ailleurs, vous avez tellement raison sur votre propos, c'est que l'origine de ces mouvements, c'est évidemment ce qu'on appelle le mouvement islamique mondial, pas islamiste, hein, le mouvement qui veut, au fond, imposer l'islam au monde entier, c'est celui qui est centré sur les Frères musulmans, qui est une organisation très ancienne, qui a près d'un siècle, et qui a des bureaux dans tous les pays du monde, dans les 193 bureaux, vous avez des bureaux des Frères musulmans, qui suivent tout ça de très près, et qui orchestrent ces manifestations à partir du moment où il y a un incident particulier, comme la guerre de Gaza. Mais derrière tout ça, derrière ce mouvement islamique, il y a ce qu'on peut appeler la guerre de l'information. C'est une guerre, elle aussi, qui date de plusieurs décennies, pratiquement depuis la fin de la guerre froide. Vous avez un certain nombre de grandes puissances. Les Américains le pratiquent, mais c'est surtout les Russes et aujourd'hui les Chinois qui le pratiquent. Une guerre de l'information qui remplace la guerre militaire et qui lui substitue d'autres moyens qui sont donc les slogans Free Palestine et qui sont derrière l'utilisation très habile avec des moyens nouveaux, dont l'intelligence artificielle, l'utilisation des médias modernes, c'est-à-dire avant tout des réseaux sociaux, où là on trouve amplifié toute cette clameur mondiale, mais aussi des médias qui ont pignon sur rue. On se plaît à parler de journaux de référence pour le New York Times, Le Monde, The Guardian, qui relaient tous ces slogans anti-israéliens. Le titre du Monde hier, c'est la guerre de Gaza, la fuite en avant de Netanyahou, qui est une folie furieuse de dire ça, puisqu'il ne s'agit pas d'une fuite en avant, il s'agit de l'exécution d'une stratégie indispensable, nécessaire, et pour lesquelles d'ailleurs la plupart des États arabes sunnites, Arabie Saoudite, Jordanie, sont derrière Israël parce que le Hamas est leur pire ennemi, et le Hamas est le pire ennemi de la paix. Il n'y aura jamais de négociation avec le Hamas. Donc, bon, dire cela, et aussi penser que Netanyahou est seul aux commandes aujourd'hui, aujourd'hui en Israël, alors qu'il y a un bureau de guerre, un cabinet de guerre avec des chefs d'état-major qui ont en vue la réalisation de l'objectif principal, c'est en finir avec le Hamas. Donc on a une guerre de l'information. Cette guerre, elle est menée par un certain nombre de gens, dont des États. Les États-Unis l'ont pratiqué, mais ils sont dépassés aujourd'hui par les Russes. Les Russes qui ont montré leur savoir-faire au moment du protocole des sages de Sion au début du siècle dernier, et aujourd'hui qui relaient tout cela parce que, alors justement pour répondre à votre question, tout ça dépasse Israël. Tout ça, c'est une guerre contre l'Occident, contre la domination américaine. Alors évidemment, les Chinois qui se sentent agressés par les États-Unis en profitent pour en rajouter aussi. Et cette guerre de l'information, elle serait perdue par l'Occident s'il n'y avait pas Israël. Israël seul, isolé, a le courage de tenir tête contre vents et marées. Et donc, tous ceux qui ont un peu de raison dans le cerveau doivent souhaiter la victoire d'Israël sur le Hamas. Et ensuite, oui, des négociations, mais qui ne seront pas du tout celles dont on parle, parce que l'ennemi, la question principale, ce n'est pas la Palestine, c'est l'Iran. Et le Hamas a attaqué pour des raisons iraniennes et pas pour des raisons palestiniennes.
Merci Daniel Haber pour cette analyse, pour ces conversations. On se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.